Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et il est fidèle au poste. Bien évidemment, nous ne passerions pas une journée sans lui, une semaine sans lui. Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, après les vestiges de l'Antiquité, les églises et les cathédrales, la semaine dernière, on s'en souvient, quel sera le sujet de cette troisième chronique de la série consacrée, on le rappelle, au patrimoine européen?
Tout simplement, l'architecture. Si le cinéma est désigné comme le septième art, le premier, c'est l'architecture. La mère de tous les arts, en quelque sorte. Car l'architecte n'est pas seulement le concepteur d'un ouvrage technique complexe et le responsable du chantier de construction. Il est, en Occident, c'est-à-dire historiquement en Europe, un véritable artiste et créateur au même titre que le peintre ou le sculpteur.
Ça veut dire que c'est une profession très ancienne.
Probablement. Elle date du jour où l'homme ne s'est plus contenté de construire son habitat empiriquement, mais de véritablement le concevoir, puis de le dessiner. Le mot « architecton » apparaît en Grèce, bien sûr, mais pour désigner plus un technicien de la construction qu'un véritable artiste. Il est repris quelques siècles plus tard à Rome par Vitruve, dans le premier livre d'architecture qui nous soit parvenu, « De Architectura », dans lequel il définit ainsi les qualités qui doivent, selon lui, être celles d'un architecte. Je le cite. « Il faut qu'il soit ingénieux et laborieux tout ensemble, car l'esprit sans le travail ni le travail sans l'esprit ne rendirent jamais aucun ouvrier parfait. Il doit donc savoir écrire et dessiner, être instruit dans la géométrie et n'être pas ignorant de l'optique, avoir appris l'arithmétique et savoir beaucoup de l'histoire, avoir bien étudié la philosophie, avoir connaissance de la musique et quelques teintures de la médecine, de la jurisprudence et de l'astrologie. » Fin de citation.
Rien que ça.
Voilà. C'est bien ici la définition d'un esprit complet qui deviendra à l'époque de la Renaissance, très inspiré de la pensée antique, le modèle de l'esprit humaniste.
Donc on est déjà à la Renaissance, mais il me semble pourtant qu'avant, il y a le Moyen-Âge, ces cathédrales dont on parlait la semaine dernière.
Oui, bien sûr. Des cathédrales qui se sont construites sur de longues périodes et auxquelles ont participé de nombreux maîtres d'œuvre sans qu'apparaisse de façon évidente le nom d'un concepteur particulier. Le premier architecte dont le nom soit resté associé à son œuvre, c'est le Florentin Filippo Brunelleschi, le concepteur du célèbre Duomo, le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence en 1436. Puisque nous sommes en Italie, restons dans cette architecture de la Renaissance avec la basilique Saint-Pierre de Rome, l'église du pape, à la construction de laquelle contribuèrent entre 1506 et 1626 des architectes prestigieux comme Bramante, Le Bernin et Michel-Ange.
Une architecture essentiellement religieuse donc ?
Pas seulement. L'architecture de la Renaissance, comme l'architecture classique qui lui succédera, a pour principe la géométrie et la régularité qui étaient ceux des architectes antiques et de Vitruve. C'est d'abord en Italie qu'elle se manifeste dans la construction d'églises, certes, mais aussi dans l'édification de riches demeures aristocratiques. En France, et puis partout en Europe, les familles régnantes se feront bâtir des palais, symboles de leur puissance. C'est dans les années 1520, les débuts de la construction du château de Chambord, qui sera suivi au siècle suivant de celle du Versailles du Roi Soleil. Un monument architectural qui inspirera au cours des XVIIe et XVIIIe siècles le palais de Buckingham à Londres, l'Escurial de Madrid, le château de Hohenzollern à Berlin et jusqu'au palais de Peterhof de Pierre le Grand près de Saint-Pétersbourg, dont j'ai parlé cette année à propos de la Russie. Un classicisme qui a donné vraiment son unité à l'architecture européenne, même si, ici ou là, elle reçoit des influences ou inspirations plus locales.
Mais on peut donc parler d'une architecture européenne.
Oui, les édifices élevés au cours des siècles présentent d'évidents caractères communs, notamment, nous l'avons dit, du fait de l'influence du catholicisme partout en Europe occidentale. Comme on peut parler aussi d'un urbanisme classique européen. L'urbanisme, c'est ce principe, souvent associé à l'architecture, de l'organisation spatiale des villes. Et la Rome antique a donné très tôt un modèle quadrangulaire que l'on retrouve dans les villes nouvelles du XVIIe siècle, de Barcelone jusqu'à Split. Et c'est une fois de plus un exemple montrant que dans l'Europe des siècles passés, les frontières n'étaient pas étanches aux influences et aux échanges artistiques ou culturels.
Bon, vous nous avez laissé une époque relativement ancienne. Est-ce que vous voulez peut-être nous parler de l'architecture et des architectes d'aujourd'hui ?
Comme il me reste un peu de temps, j'évoquerai d'abord ce 19e siècle, siècle charnière dans de nombreux domaines, dont le nôtre. Il voit d'abord réapparaître des formes architecturales du passé que l'on affuble du préfixe néo, néo-gothique, néoclassicisme entre autres, style auquel appartient l'église de la Madeleine à Paris et qui connaîtra un étonnant succès aux États-Unis.
Ah oui.
Mais le 19e siècle voit aussi se développer des conceptions architecturales nouvelles avec l'utilisation de nouveaux matériaux. Parmi les plus connus de ces novateurs, l'architecte Viollet-le-Duc, rénovateur de Notre-Dame de Paris et concepteur de sa flèche, et l'ingénieur Gustave Eiffel, dont on connaît au moins une réalisation.
Aucune idée.
Mais c'est au XXe siècle que l'architecture va prendre un nouvel essor et aller dans des sens très divergents, en perdant probablement beaucoup de son caractère strictement européen. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, l'architecture s'est véritablement mondialisée. L'Europe a pourtant fourni à l'architecture contemporaine quelques-uns de ses grands noms, au premier rang desquels le Suisse Le Corbusier, nom qui, comme celui de Picasso en peinture, personnifie à lui seul l'architecture moderne. Je citerai encore l'Espagnol Ricardo Bofill, décédé en début d'année, le Français Jean Nouvel, l'Italien Renzo Piano, ou pour finir, Mies van der Rohe, cet architecte d'origine allemande dont le nom a été donné à un prix remis tous les deux ans par la Commission européenne à des œuvres architecturales remarquables construites dans toute l'Europe.
Et patrimoine encore la semaine prochaine ?
Oui, un patrimoine peut-être moins prestigieux, quoique, mais qu'il est tout aussi urgent de conserver.
Oh, j'entends les auditeurs dire, mais lequel ? Patience, va falloir attendre une semaine, il est comme ça. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine.
Eh bien, bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Gergé-Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.